Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre. Cette semaine, je reçois au micro et pour témoin Père Pierre Amard, auteur de ce dernier livre témoignage paru aux éditions Artege, intitulé Hors service. Bonjour Pierre Amard.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, c'est l'expérience de la fragilité, l'expérience de la souffrance et de la maladie sur un lit d'hôpital. Vous, le prêtre, non pas super-héros, super-actif, mais le prêtre qui sera arrêté brutalement. Et votre agenda missionnaire sera déprogrammé. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été déprogrammé par le bon Dieu?
Oui. Complètement, ou renouvelé et redéployé autrement. En tout cas, je suis passé de 200 à l'heure à zéro, ça c'est sûr. Oui. Ah oui, en une soirée. Oui.
Alors, dans votre livre témoignage que je conseille à beaucoup d'auditeurs, donc à offrir en cadeau peut-être à des personnes qui traversent l'épreuve de la maladie, un chapitre intitulé « Transfusion ». Dans ce chapitre où vous allez être hospitalisé pendant près de 50 jours, 50 jours d'hôpital. C'est aussi une visite quotidienne du Père Jean-Marie, qu'on salue très fort.
Incroyable.
Il appartient à la communauté Saint-Martin et c'est le padré en fait. Et ce padré aura un rôle très important pour vous.
Oui, j'ai été hospitalisé dans un hôpital militaire et le monde militaire est habitué aux figures des aumôniers militaires, des grands cultes présents en France. Et donc, il y a un aumônier catholique qui est présent dans cet hôpital militaire de Clamart, à côté de Paris, où j'ai été hospitalisé. Et ce prêtre que je connaissais un petit peu avant me faisait peur un peu, parce que c'était un prêtre aussi à 200 à l'heure, très au grand potentiel. Il a été d'ailleurs modérateur, c'est-à-dire supérieur de sa communauté. Et puis là, peut-être un peu à l'automne de sa vie, il se retrouve aumônier d'hôpital. Longtemps pour moi, les aumôniers d'hôpitaux, ça a été des postes, vous savez, où on donne ça aux prêtres une fois qu'ils sont un peu vieux, un peu âgés, on ne sait pas trop quoi en faire, on les met là. Et la présence de ce frère aîné dans le sacerdoce, qui est venu me voir, vous vous rendez compte, tous les jours, même le dimanche, même le jour de l'opération, alors qu'on est un peu inquiet, un peu perplexe, et puis l'opération était importante, enfin une des opérations, parce qu'il y en a eu plusieurs, sa visite régulière, à la fois fraternelle et paternelle, c'est curieux parce qu'on l'appelle le padre, ça veut dire père en espagnol. Curieux cet homme qui est célibataire, qui n'a pas de femme, pas d'enfant, et qu'on appelle père. Nous aussi, les prêtres, on nous dit père, mais on m'appelle Père Pierre ou l'abbé Pierre, ça fait rire les jeunes de l'aumônerie, ça. Mais alors que je n'ai pas d'enfant, moi j'ai vu au quotidien cet homme rayonner d'une paternité, tout autre que la paternité charnelle, évidemment, qui a été pour moi un immense soutien, un immense soutien. Il a même proposé, je me souviens, la veille de l'opération, d'assister à l'opération. Je lui dis, mais vous ne ferez rien. Il me dit, non, je serai dans un coin et je dirai mon chapelet. Est-ce que tu veux? J'ai dit, mais avec joie. Même avec joie. J'ai dit, mais évidemment. Ouais. Alors, il n'a pas fait pour finir parce qu'il est allé à l'opération d'un autre patient qui était un légionnaire et qui n'avait pas de famille, lui. Il m'a dit, tu comprends, il n'a pas de famille. Toi, t'es entouré. Je vais aller à son opération. Je lui dis, mais évidemment, allez-y.
Alors, pendant ces deux mois d'hospitalisation, vous ne pouviez plus célébrer la Sainte Eucharistie.
Oula, il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Je ne pouvais plus
rien, en fait.
Bouger. Je ne pouvais plus déglutir. Je ne pouvais plus
manger. Recevoir le corps du Christ.
Oui, impossible, impossible. Je ne pouvais plus dire la messe. Je pouvais un peu prier, un peu offrir. Pas beaucoup sourire, un peu, tout petit peu.
Qu'est-ce que vous mettez sur offrir?
Offrir, c'est le béaba du sacerdoce. Nous, tous les jours, on offre la messe. On célèbre la messe, pas pour nous, mais pour le monde. On offre Jésus qui se donne. Et moi, le fait que je ne puisse plus faire ça, c'est le cœur de mon sacerdoce. Enfin, un prêtre qui ne dit plus la messe, c'est un prêtre qui ne sert à rien. Quoi. Enfin, on se demande pourquoi il est prêtre. Et c'est l'immense épreuve que j'ai eue à vivre, de se dire, ben voilà, j'ai regardé la messe à la télé. Moi, ça ne m'était jamais arrivé, moi, de regarder le jour du Seigneur. Vous savez, le dimanche matin. Moi, le dimanche matin, j'ai autre chose à faire que de regarder la messe. Je la fais, la messe, moi. Eh bien, elle m'a fait un bien fou, cette messe à la télé, parce que j'avais que ça, quoi. Et surtout, et vous avez raison de le souligner, ce prêtre qui, tous les jours, est venu. Alors, comme je ne pouvais pas manger ni déglutir, parce que j'étais sous perfusion, incapable de manger, il est venu tous les jours me déposer. C'est à la fois drôle et à la fois magique. Des petites gouttes de sang du Christ. Vous savez, à la messe, on consacre le pain et le vin qui deviennent corps et sang de Jésus. Alors le vin, il est mis dans un calice, je ne peux pas boire. Donc il me déposait avec une pipette, 3-4 gouttes de sang du Christ sur la langue, et il me disait cette phrase qui résonne encore en moi, parce que je comprends maintenant ce que ça veut dire. Il me dit, et voilà, te voilà transfusé. Et comme j'ai été transfusé plusieurs fois à l'hôpital, Je me suis dit, bah oui, il a raison, c'est plus mon sang à moi, c'est le sang d'un autre. Et là, c'est le sang de l'autre avec un grand A, le sang de Jésus. Et vous vous rendez compte, ça fait 18 ans que je suis prêtre, ça fait 18 ans que je dis la messe. Mais j'avais jamais compris ça. Qu'à un moment donné, le sang du Christ coule dans mes veines et que je suis renouvelé, régénéré par sa vie à lui, son sang à lui.
Vous vous rappelez ce moment, après ces temps d'hospitalisation, où vous célébrez à nouveau, debout,
assis,
en fauteuil roulant peut-être,
ouais. Je suis sorti en fauteuil roulant, votre première
Eucharistie.
Ouais, je me souviens très bien, j'étais dans un EHPAD tenu par des religieuses, les petites sœurs des pauvres, qui font un travail merveilleux auprès
vous,
de...
Vous en parlez dans votre livre.
Hein, qui s'occupent des personnes âgées. Et elles ont une chapelle. Alors pendant 15 jours, incapable de dire la messe. J'assistais à la messe. J'étais assis au milieu des gens, comme tout le monde, en pyjama. Bon. Et puis au bout d'un moment, je me sentais un peu mieux. J'ai dit, mais moi, je veux dire la messe. Mais je ne me sens pas capable de la dire debout. Je l'ai dit assis, et derrière l'autel, sur un fauteuil. Et j'ai pleuré. Je me souviens très bien. Mes parents étaient là. Je cherche mes mots. C'est encore émouvant pour moi d'en parler. C'est-à-dire, je retrouvais ce pourquoi j'étais prêtre, en fait. De redire la messe. C'est-à-dire, en fait, de retrouver mon être, mon identité profonde, en fait. Et ce jour-là, oui, je me souviens très bien, et de la date, et du jour, et de la chapelle. Grande joie de pouvoir refaire, non pas ce dont j'avais été privé, j'ai pas été un enfant qui a été privé de son jouet, c'est pas ça. J'avais été un être qui pouvait plus faire ce qu'il doit faire, ce qu'il est... son être profond. Et là, je l'ai retrouvé. Oui, grande joie, grande joie.
C'est vital, c'est le cœur de la mission du prêtre. Célébration des sacrements, et en particulier le cœur de l'Eucharistie.
C'est ça, c'est-à-dire, en fait, faire le plein de Jésus pour le redonner aux autres. Parce que c'est pas juste égoïste, vous voyez, c'est fréquenter le Christ dans ses sacrements, dans l'Eucharistie, par exemple la messe, pour ensuite en parler aux autres. Sinon, oui, c'est pas...
C'est revivre aussi un peu, à chaque messe, cette passion du Christ.
Complètement.
Que vous avez médité, permettez-moi, je fais un va-et-vient avec votre livre, et puis votre expérience des 50 jours à l'hôpital, des opérations subies sur un lit d'hôpital avec souffrance physique, fragilité aussi psychologique.
Oui,
Est-ce qu'on revit cette passion du Christ? Est-ce que vous l'avez revécue?
Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'au début, j'étais d'abord hospitalisé en Italie, parce que mes soucis sont arrivés en Italie. Et en Italie, il y a des crucifix dans les chambres d'hôpitaux. Bon, à vrai dire, il y en a partout, dans les pizzerias et les glaciers aussi. Hein. Mais enfin bon, à l'hôpital, lorsque vous êtes cloué à votre lit, cloué au sens figuré, avec des tubes partout, des tuyaux partout, incapable de bouger, et que vous avez en face de vous, sur le mur en face de votre lit, un crucifix, un homme qui souffre, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire le parallèle en disant, mais lui c'est moi, moi c'est lui, lui et moi on est ensemble, il est là, il souffre avec moi, il a mal avec moi. Et donc ce rapprochement brutal, soudain, dans les larmes, dans le sang, fait que ben oui, si vous avez la foi, vous dites, mais Jésus est avec moi, évidemment. Et c'est une question que je me suis posée d'ailleurs. Comment font ceux qui n'ont pas la foi quand ils ont mal? Ils doivent avoir encore plus mal, je pense. Ils doivent encore plus souffrir. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse.
Vous avez eu des rencontres, puisqu'on parle aussi de ceux qui souffrent et que vous avez rencontrés à l'hôpital.
Bien sûr, ça devient des collègues.
Et qui n'ont pas la foi.
On a beaucoup parlé parce que très vite, on a su que j'étais prêtre. Et puis surtout, j'avais pas mal de prêtres qui venaient me voir, et mon évêque aussi. Encore une autre forme de paternité. Tiens,
beaucoup d'humour dans votre livre aussi.
Et mon évêque, donc, les patients voyant l'évêque, avec les curés, enfin tout le diocèse venir en défilé dans ma chambre. Évidemment, on a très vite su que j'étais prête et la question est venue très vite. Mais alors, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi la souffrance? J'ai pas eu toujours les réponses, mais je suis convaincu que parce que Jésus est mort sur la croix, parce qu'il a souffert avec nous, souffrir, c'est lui ressembler, c'est se rapprocher de lui.
Alors, vous parlez de la visite de votre évêque, une paternité aussi pour vous, que vous redécouvrez.
Vous étiez
proche de votre évêque.
Pas tant que ça. En fait, on voit son évêque quand ça va mal, quand on a soit fait des grosses bêtises ou des trucs atroces, quand on est malade. Et moi, je n'ai jamais vu mon évêque depuis 18 ans que je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu voir une fois tous les deux ans. Ça va, oui, ça va, tout va bien. Je connaissais le chef qu'il est, parce qu'il faut bien qu'il gouverne le diocèse. Comment dire? Il nous reste un petit peu de temps, un peu...
deux minutes, et on reprend.
Le chef qu'il est m'avait déçu, parce que le chef fait des erreurs. Et puis, c'est bien connu, quand ça va mal, c'est toujours la faute du chef, alors que ce n'est pas tout à fait exact. Mais enfin bon, le chef m'avait déçu. Et puis là, à l'hôpital, réduit à pas grand-chose, faible, vulnérable, fragile, j'ai vu le Père. C'est-à-dire, c'est plus le chef qui venait, c'est le Père qui venait me voir. Moi, son fils prêtre, souffrant. Il est venu toutes les semaines. Lui qui a horreur des embouteillages, qui a horreur de conduire, il est venu me voir toutes les semaines en se tapant une heure de conduite à l'aller, une heure au retour. Parfois, il ne restait qu'un quart d'heure tellement j'étais fatigué. On a eu des rencontres d'une profondeur, d'une puissance inégalée qui ont bouleversé à la fois mon regard sur lui aujourd'hui et puis mon regard sur les évêques et l'autorité. C'est-à-dire, si le chef fait le chef parce qu'il veut avoir du pouvoir, ça ne sert à rien. Mais si l'autorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que dans l'Église, hein, si l'autorité est un service pour se mettre au service des autres, alors oui, il nous faut des chefs, évidemment. Bien sûr.
Alors demandons des chefs.
Des chefs qui servent par amour. Oui,
oui. Oui, et puis de paternité.
Oui. Hein,
c'est
oui.
Ce qu'on peut relever aussi dans ces différents entretiens avec vous cette semaine. Peut-être ce besoin aussi de retrouver ce lien de nos frères prêtres avec leurs évêques, ce lien de paternité.
Pourquoi les appelle-t-on père? Est-ce qu'on ne le voit pas assez? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon peut-être, j'enlève le peut-être, c'est une façon pour nous de vivre le célibat. En fait, nous sommes pères.
On va en reparler.
Nous sommes pères d'une autre façon d'être père, en fait, d'une autre façon.
Oui. Parce que la question du célibat, en ce moment, l'Église est un peu tourmentée. L'Église traverse des temps de crise et la question du célibat est souvent bien au cœur. Père Pierre Amard, auteur de ce livre témoignage hors service, paru aux éditions Artege, vous propose de nous retrouver dès demain pour la suite de cette série des clés pour vivre. Merci.